Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Martineau. Le cauchemar de tous les woke.
Alors, le dossier de l'ingérence de la Chine au Canada est en train de devenir un scandale vraiment majeur. Il devait avoir un vote de confiance aujourd'hui. Finalement, il n'y en aura pas à Ottawa. Nous allons revenir sur les dernières nouvelles concernant ce dossier avec M. Guy Saint-Jacques, ex-ambassadeur du Canada en Chine. Bonjour, M. Saint-Jacques.
Bonjour, M. Martineau.
Écoutez, de plus en plus de textes de commentateurs canadiens étrangers disent que le Canada, finalement, ne fait que récolter ce qu'il a semé, c'est-à-dire des années de complaisance et de naïveté envers la Chine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic?
Ben, tout à fait. Puis, en fait, c'est pas les feux jaunes puis les mains levées, là, particulièrement de la part des gens de nos services de sécurité, là, le CRS puis la GRC. Parce que ça fait depuis plusieurs années qu'on voit des évidences que la Chine est très active. Et puis, en fait, c'est un programme systématique qui est mené et qui s'est accru depuis que Xi Jinping a pris le pouvoir en 2012.
Écoutez, il y a deux façon de concevoir le rôle d'un ambassadeur et d'une ambassade à l'étranger. C'est-à-dire que il y a des gens qui pourraient dire les ambassadeurs à l'étranger, ce sont nos yeux, ce sont nos oreilles, il faut les écouter. Alors, ils disent voici ce qui se passe dans ce pays-là. Et l'autre façon, c'est-à-dire que ce sont des... on va leur dire quoi faire, on va leur dire quoi dire, et c'est à eux autres à nous écouter. C'est Ottawa qui va diriger, on a souvent dit que M. Harper, c'est cette vision-là qu'il avait des ambassades, c'est-à-dire que l'ambassade était comme des instruments pour appliquer ce que Ottawa disait, et que les autres gouvernements, au contraire, étaient plus à l'écoute des ambassades. Vous, votre expérience quand vous étiez là-bas, c'était quoi?
Ben, je dirais que moi, dans mon cas, j'ai été nommé par le gouvernement Harper ambassadeur à Pékin. Je sais que ils avaient regardé la possibilité de faire une nomination politique, puis finalement, ils s'étaient résolu à nommer quelqu'un de la carrière. Puis moi, j'avais été très clair avec eux. J'avais dit, écoutez, la Chine est en train de changer. Et puis quand, une fois rendu sur place, j'ai envoyé des rapports pour dire, voici comment Xi Jinping est en train de changer la direction de la Chine en menant une politique étrangère beaucoup plus agressive. Mais aussi, il faut faire attention aux activités qu'il mène à l'étranger, parce qu'il y a une organisation qui s'appelle le département du Front uni, et Xi Jinping a donné des milliards de dollars pour qu'il mène des opérations à l'étranger. Le but, c'était d'influencer et de neutraliser des groupes qui traitent, la Chine a une façon de résumer ça en parlant des cinq poisons. Eux, ce que la Chine veut faire, c'est neutraliser les gens qui veulent parler du Xinjiang, du Tibet, de Taïwan, ou qui veulent faire la promotion de la démocratie en Chine. Et donc, ils font l'essentiel pour faire taire les voix en menaçant les gens. Puis il y a un effort particulier qui est porté auprès de la communauté chinoise. Et d'autre part, ils ont très bien compris, dans le cas du Canada, comment fonctionne notre système politique et quelles sont les vulnérabilités qu'ils peuvent exploiter. Donc, moi, mon rôle, puis ça a continué une fois que le gouvernement Trudeau a été élu, ça a été de dire, attention, la Chine est en train de changer, il faut... Puis j'avais aussi plusieurs rapports qui montraient qu'il y avait effectivement de l'interférence dans notre système politique. Et puis, qu'il fallait non seulement porter attention à ça, mais être beaucoup plus actif pour s'opposer aux tentatives de la Chine d'interférer dans notre système.
Est-ce que vous sentiez qu'on vous écoutait, qu'on prenait au sérieux les rapports que vous envoyez à Ottawa?
Ben, malheureusement, je pense que c'est ça. En fait, les gens dans la classe politique, le premier ministre, les ministres, ce sont tous des gens occupés qui arrivent au pouvoir avec leur conception, avec leur connaissance. Et puis, ça prend une certaine humilité pour dire, bon, peut-être que mes connaissances sont pas à jour, puis il faudrait peut-être que j'écoute les experts. Puis, je peux vous dire que quelqu'un comme la ministre Freeland ou quand M. Dion était ministre des Affaires étrangères ou M. Champagne, eux m'écoutaient, me posaient beaucoup de questions. Et puis, mais malheureusement, dans le cas du premier ministre, puis moi, c'est ça, je l'ai vu à l'œuvre pour sa première visite officielle en Chine qui a eu lieu à la fin du mois d'août 2016. Ben là, je dois, ma conclusion, c'est que sa connaissance de la Chine n'était pas à jour, puis que ça avait besoin d'un sérieux rafraîchissement. Puis, ça l'a pris, malheureusement, l'affaire Meng Wanzhou, puis les deux Michael pris en otage pour finalement que Ottawa commence à réaliser que la Chine avait changé puis qu'il fallait ajuster notre politique.
Parce que là, ce qu'on dit, c'est que c'est presque une affaire de famille. Là. Ce qu'on est en train de dire, c'est que les Trudeau, en général, ont été très naïfs vis-à-vis de la Chine. C'était le cas du père Pierre-Éliott Trudeau, c'était le cas de Justin, c'est le cas de son frère aussi. Est-ce que vous seriez prêt à dire qu'effectivement, c'est la famille Trudeau avait une conception de la Chine qui était un peu dépassée?
Ben, dans le cas de Trudeau père, en fait, il y avait un objectif qui, à mon avis, était un objectif louable. C'était de dire on peut pas laisser le pays le plus populeux au monde en dehors du système des Nations Unies. Il faut trouver une façon de les ramener là-dedans, puis essayer de voir si on peut les aider à évoluer. Puis ça a été, je dirais, la politique sous Trudeau, mais
ça, ensuite, c'était dans la suite, c'est dans la foulée de l'ouverture là, de la visite de Nixon historique en Chine,
oui.
Là, c'est ça. Là.
Et puis, et d'ailleurs, en fait, M. Trudeau était précurseur parce que le Canada a reconnu la Chine 2 ans avant que Nixon aille en Chine. C'est ça, on avait pris les devants, puis la Chine a beaucoup apprécié ça, puis ensuite, cette politique-là, en se disant, bon, on va investir en Chine, on va développer relations, on va les aider de diverses façons. On a eu un programme d'aide au développement mené par l'ACDI où on a dépensé plus $1 milliard qui a été très bénéfique pour la Chine, très apprécié. Quand moi j'étais ambassadeur puis je me déplaçais souvent, j'avais des gens qui venaient me voir puis disaient merci au Canada pour tout ce que vous avez fait pour nous. On a aidé à créer l'industrie laitière là-bas. On a formé des ingénieurs, des juges, des avocats. On a aidé à créer le ministère de l'Environnement. C'est que tout ça a été apprécié. Puis, cet essor-là s'est accéléré quand Brian Mulroney était premier ministre, puis ensuite M. Chrétien. Mais, à un moment donné, particulièrement quand Xi Jinping a pris le pouvoir en 2012, là, il y avait plusieurs signaux qui indiquaient la Chine est en train de changer, puis en fait, elle ne change pas dans la direction qu'on espérait. Et puis dès ce moment-là, il aurait fallu commencer à ajuster. Là, on est en train de le faire, puis j'ai été très heureux avec la stratégie indo-pacifique qui a été dévoilée par Mme Joly en novembre, qui dit que la Chine est une puissance perturbatrice, qui reconnaît que la Chine est une menace et donc qu'il faut avoir un engagement beaucoup plus ciblé. Puis surtout, il faut travailler avec les partenaires pour contrer le côté voyou de la Chine. Puis bien sûr, des gens me disent hey, tu vas loin en disant voyou, mais je dis quand vous prenez des gens en otage ou que vous punissez un pays à coups de milliards de dollars parce qu'ils ont osé dire quelque chose que vous aimez pas, c'est un comportement de voyou et il faut s'opposer à ça.
Écoutez, pendant très longtemps, on a dit le capitalisme, ça amène automatiquement la démocratie, l'égalité, les droits de la personne, etc. Donc, plus un pays adopte le capitalisme comme système économique, ça va changer sa façon de faire. La Chine a inventé une nouvelle affaire. C'est-à-dire, on peut être capitaliste et une dictature en même temps. Et ça, c'est assez particulier. Ça n'existait pas, ce genre d'affaires-là. C'est une troisième voie.
Oui, puis en fait, aussi, ce à quoi on assiste depuis que Xi Jinping a pris le pouvoir, c'est un peu un retour à l'époque de Mao Tse-tung, où il met l'accent beaucoup sur les grandes entreprises d'État. D'ailleurs, ça a inquiété beaucoup de gens dans le secteur privé. Puis là, ils essaient de rétablir les ponts parce qu'il faut qu'ils reconnaissent que 70% des emplois sont créés par le secteur privé. Puis Xi Jinping a essayé de contrôler les grandes industries technologiques comme Alibaba, puis essayer de contrôler dans le secteur immobilier. Puis là, ça, en fait, ça a produit des effets contraires puis qui expliquent la situation économique difficile de la Chine. Mais il y a des inquiétudes. Puis aussi, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que Xi Jinping utiliserait les progrès technologiques pour accroître les contrôles sur la population chinoise, entre autres avec les caméras où ils utilisent les logiciels pour la reconnaissance faciale, suivre les déplacements des gens, puis ils ont mis en place un système de contrôle extrêmement efficace. Mais il faut dire que il y a de plus en plus de Chinois qui récentes et qui sont pas d'accord avec ça. Puis on a vu ça lors de la dernière phase des mesures de contrôle, des mesures de confinement sur la COVID-0 en Chine, où les gens disaient le gouvernement est bon pour contrôler, mais il est pas bon pour gérer. Regardez la fin abrupte. Mais Xi Jinping, pour lui, la survie du parti, c'est essentiel, puis ça passe par un contrôle continuel de la population chinoise. Maintenant, c'est très difficile de s'opposer à une politique ou de critiquer le leader. On est immédiatement identifié puis emprisonné. Puis ils ont mis en place le fameux système de contrat social où chaque citoyen chinois se voit attribuer un score, puis il perd des points s'il fait des critiques et puis est rendu à un certain point. Si tu as perdu trop de points, tu peux plus prendre le TGV, tu peux plus prendre l'avion.
C'est fou. On dirait un épisode de Black Mirror.
C'est ça. Puis si tu as besoin d'un prêt hypothécaire, ton taux est plus élevé. Puis non seulement ça, à un moment donné, si tes amis perdent des points aussi, c'est qu'à un moment donné, tes amis t'abandonnent aussi. Ils disent, hey, écoute, c'était pour me faire perdre des points. On voit comment ça touche toutes les facettes de la vie. Puis moi, quand je parle avec des amis chinois ici à Montréal, qui ont des amis qui ont été exposés au monde occidental, il y en a beaucoup qui sont en train de faire des plans pour essayer de quitter. Puis là-dessus, le régime chinois a compliqué les choses pour transférer de l'argent à l'étranger pour empêcher les gens de quitter. Mais il y a beaucoup d'insatisfaction latente. Et puis, malgré tout, c'est ça, Xi Jinping a réussi, mais il y a une certaine fragilité dans ce système-là.
Et là, en terminant, là, bon, il y a une idée d'avoir un registre qui dresserait la liste de tous les agents étrangers, les agents du régime chinois ici en place au Canada, d'avoir un registre pour pouvoir les reconnaître et tout ça. Et là, c'est le jeu, bien sûr, du gouvernement du régime chinois de dire que c'est raciste de faire ça, de viser particulièrement les Chinois. Il y a des gens ici qui aussi défendre le régime chinois, qui disent c'est raciste, etc. Je lisais dans le National Post une lettre ouverte qui est écrite par un cinéaste, Chuck Kwan, et une avocate, Dora Nip, qui sont asiatiques, qui sont chinois, d'origine chinoise, qui disent arrêtez de dire c'est raciste. C'est pas raciste. À un moment donné, il faut prendre ce genre de mesures-là. Ça ne vise pas la population chinoise, ça vise le régime.
Ben, en fait, c'est ça. Puis en fait, c'est de la propagande. Ça, c'est un bel exemple de la propagande chinoise. En fait, le registre, c'est pas pour les registres de Chinois, c'est pour le registre de Canadiens ou d'autres étrangers qui font du travail pour le compte du gouvernement chinois ou d'entreprises chinoises. Par exemple, moi, en tant qu'ancien ambassadeur, je connais très bien le fonctionnement du gouvernement canadien. C'est que si j'étais recruté pour siéger au conseil d'administration d'une des grandes compagnies pétrolières chinoises comme Sinuk, ben ça serait du bonbon pour eux parce que je pourrais leur sauver beaucoup de temps en disant, bon, OK, voici la façon de présenter la demande au gouvernement, voici qui s'occupe de ça. C'est que le registre, ça serait surtout pour des anciens politiciens, des anciens ministres, des anciens hauts fonctionnaires qui connaissent très bien le fonctionnement du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux, et dire à ces gens-là, si vous représentez des intérêts étrangers, vous devez les déclarer, puis vous devez déclarer comment vous recevez l'argent. C'est que c'est pas une mesure raciste du tout, c'est juste pour contrer l'influence chinoise. C'est d'ailleurs un registre de ce genre-là qui a été établi par les Australiens qui ont très bien compris comment le gouvernement chinois opérait pour exercer de l'ingérence. C'est ça qu'il faut corriger. Puis, bien sûr, il faut rassurer les membres de la communauté, de la diaspora chinoise. Puis, en fait, le problème avec nos gouvernements actuels, c'est comme s'ils disaient, ben, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans cette communauté-là, puis on veut pas trop intervenir. Mais
oui,
dire, ça, c'est la politique de l'autruche, là.
Ben oui.
Parce que ça laisse le champ libre au gouvernement chinois, puis il faut faire beaucoup d'efforts pour rassurer ces gens-là, leur expliquer aussi comment notre système fonctionne. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'immigrants récents chinois qui n'ont jamais vécu dans un régime démocratique, qui sont encore influencés par les médias chinois, comme les médias sociaux comme WeChat, Weibo. Et il faut contrer la propagande chinoise. C'est la responsabilité des gouvernements d'être beaucoup plus proactifs.
Sans tomber dans la paranoïa de Bob Moran qui se battait contre l'ombre jaune et de X-13 qui combattait le péril jaune, il faut quand même prendre la menace chinoise au sérieux.
Tout à fait.
Merci beaucoup, M. Guy Saint-Jean. Toujours intéressant de vous parler, ex-ambassadeur du Canada en Chine. Bonne journée.
Bonne journée aussi. Bonjour.